Chapitre 4. L'obsession de cette pensée, le mariage ne se fera pas, il ne doit pas se faire, fut l'unique clarté qui luisit dans le cerveau de Julien au réveil. Tout le reste était l'incohérence, la nuit. Un tel état mental est celui des monomanes impulsifs, si curieusement et si scientifiquement étudiés aujourd'hui, qui se lèvent un matin, sortent, marchent droit devant eux, au suicide, au vol, au meurtre, mystérieusement contraints et vraiment irresponsables. Mais ce que la science n'a pas assez dit, parce qu'elle choisit surtout ses sujets d'observation dans le peuple, où la monomanie a des manifestations simples, c'est que presque tous les êtres vivant de cette vie de lutte, de plaisir, d'émotions factices, violentes et répétées, qui est la vie des capitales modernes, c'est-à-dire des grands marchés d'argent, de gloire et de débauche, presque tous ces êtres portent le germe d'une monomanie impulsive. On est surpris de voir éclater brusquement l'événement, le meurtre commis sur l'amant par le mari réputé le plus complaisant, le coup de revolver du viveur qui se liquide après une soirée de thé, de placide conversation, de poker inoffensif au club, la débâcle dans l'ordure d'un grave personnage après 30 ans de tenue. L'idée fixe de Julien le poussa à se hâter de se mettre en mesure de rejoindre Maud ou Maxime, ou tous les deux s'il se pouvait, à provoquer la catastrophe. Et tout de suite, des paroles de Hector lui revenaient à la mémoire. Maxime, tous les jours, à déjeuner, arrive par un train du matin, et le nom, le lieu de Chamblay, devinrent le pôle de son impulsion. Il s'habilla assez prestement. Il ne méditait plus, il ne pensait plus, il ne souffrait pas non plus. L'horrible névralgie de son âme était assourdie, stupéfiée, sinon apaisée. Comme son valet de chambre, étonné d'être sonné à 7 heures matinale, lui disait « Monsieur me permettra-t-il de lui demander si monsieur va se battre ?» Il sourit assez gaiement. « Non, Constant, je vais seulement à la campagne. » Et c'était vrai, il n'en savait pas plus long pour le moment. En glissant sa montre dans le gousset de son gilet, il lut l'heure. 9 heures passées de quelques minutes. Je n'ai dormi que 3 heures. Constant a raison, il est bien tôt. Le mécanisme de sa mémoire fonctionnait docilement au service de son impulsion. Il se rappela que des trains partaient toutes les heures 5 et toutes les heures 35 à la gare du Nord. J'arriverai un peu tôt, vers 10h30. Qu'importe, il voulait être là, s'interposer entre Maud et Maxime le plus vite possible. Oui, voir Chantel. Le vœu instinctif de son cœur se formulait. Voir Maxime. Pourquoi? Pour le tuer? Pour le supplicier? Pour le convaincre? Cela, il ne le savait pas encore. Il faut que je le voie. C'était maintenant une formule aussi indiscutable pour lui que l'autre tout à l'heure. Il ne faut pas que Maud se marie. Il arriva à la gare du Nord quelques minutes avant le départ du train de 9h30. Peu de monde encore, il fut seul dans son compartiment. Quand le train s'ébranla, Julien commença à réfléchir. Les yeux de sa raison s'habituaient insensiblement à cette clarté de l'idée fixe qui, d'abord, l'avait ébloui. Il entrait dans l'action. Il commença à voir, avec la netteté et la sûreté de l'instinct, ce qu'il allait faire. Dans moins d'une demi-heure, il serait à la gare de Chamblay. Il se rappela le décor, la petite gare rouge et jaunâtre, dressée, presque isolée, dans un paysage de plaine, ceint par des moutonnements de forêt. Il se rappela la traverse dont lui avait parlé Hector, le sentier sous bois qui menait à une porte lattée. Par là passait Maxime. Irait-il l'attendre dans ce chemin comme un voleur? Cette seconde nature, que créta un homme de longues habitudes de correction raffinée, se révolta contre l'ignominie. « Non, ce n'est pas possible, mais je peux l'attendre à la gare. Il faudra bien qu'il passe devant moi. » Il songea tout à coup que peut-être Maxime viendrait en voiture. La certitude de l'instinct protesta. « Non, il viendra par le train, je le verrai. » Et tout de suite, il eut résolu ce qu'il ferait, attendre à la gare l'arrivée du train, se mêler aux gens qui descendraient, aborder Maxime tout naturellement. Ne se connaissait-il pas assez? Que se passerait-il alors entre eux, immédiatement après l'abord? Cela encore, Julien ne le savait pas. il aspira secrètement, en ce moment où il essayait de dérober son secret à l'avenir, un mouvement d'impatience de la part de Chantel, un prétexte quelconque à duel. Ah, se battre avec lui, le tuer, tout finir sans recommencement possible d'un coup d'épée. L'évocation de sa fièvre avait changé, il voyait maintenant en face de lui un plastron de chemise, un fer croisé. Quiconque a pressenti une rencontre avec un homme vraiment haï se ressouviendra de ce brusque élan de férocité, de cette ardeur de la brute humaine vers le sang d'autrui. Quelques pouces de lame dans le poumon ou dans le cœur, et c'est fini. L'obstacle est franchi, la route est libre. Julien désira cela passionnément. Il se délecta à ce désir, presque amoureusement. Il eut la tristesse d'un réveil après un songe heureux, quand l'arrêt le rappela à la réalité. Il était arrivé à Chamblay. L'attente du train suivant, ses minutes de vie perdues à errer dans la salle de la petite gare ou sur le trottoir qui bordait la façade du côté du bois, passèrent vite, tant était intense sa préoccupation. Il ne se lassait pas de penser, de repenser coup sur coup à la minute prochaine où il se retrouverait face à face avec Maxime. Sensation fréquente dans le rêve, dans le délire de la fièvre, ces recommencements consécutifs d'un même acte qui angoissent l'âme incertaine, fréquente aussi dans la veille pour tel événement imminent d'où l'avenir va dépendre. Aux dernières minutes de l'attente, il semblait à Julien que sa rencontre avec Maxime, les mots qui allaient être échangés, étaient réglés d'avance comme l'entrée en scène de deux comédiens. Il était résolu à rester correct, maître de soi, à profiter du premier mouvement d'impatience du fiancé de Maud pour rompre l'entretien et se replier, regagner Paris à la recherche de deux témoins, avec le choix des armes pour soi. Se battre avec Maxime, d'ailleurs, c'était pour lui la certitude de le tuer, et peut-être en cela n'avait-il pas tort. Non pas tant parce qu'il était un tireur de force que par la résolution homicide qu'il eût animé sur le terrain. Quelle supériorité sur l'autre n'a pas celui des deux adversaires qui, mort ou meurtrier, préfèrent quand même l'après de la rencontre. Mais ces fictions de la fièvre, la réalité s'amuse à les démentir. Si préparé à la rencontre de Maxime, le guettant depuis une demi-heure, il arriva que Julien fut surpris en plein songe par la sortie des voyageurs qui débouchaient des salles d'attente subitement ouvertes. Ce fut Maxime qui, le premier, l'aperçut debout sur le quai qui borde la station du côté des bois, figé, distrait de tout, absent de la réalité, hypnotisé par ses imaginations. Et il lui apparut là, vraiment, comme le fantôme de sa destinée hostile, dressé sur le seuil du chemin qui le menait à Maud, décidé à le lui barrer. Telle fut la première pensée de Chantel, et sur le champ, il la corrigea. « Mais si, c'est bien moi qui l'attends. C'est pour l'affaire d'avant-hier, la petite Avrezac. » La jeune fille affolée avait dû le reconnaître, se plaindre à son amant, qui venait maintenant lui demander raison. Il ne remarqua pas combien était singulier le retard et le lieu de cette démarche. Il n'eut pas de doute. Il faut songer qu'en ce moment, Maxime était confirmé dans une foi absolue en l'innocence de Maud et croyait, pour l'avoir surpris de ses yeux, que Suberceau était l'amant de Juliette Avrezac. Il aborda Julien. « Monsieur, vous m'attendiez ?» L'imprévu de cet abord fit hésiter Suberceau une seconde. Une seconde, un rien, mais il y perdit l'offensive qu'il méditait. Il se reprit aussitôt, pourtant. Il montra de nouveau le masque d'indifférence ironique dont l'habitude d'être épié par ses adversaires revêt la physionomie de quiconque a un grade, une fonction exceptionnelle dans la bataille pour la vie. « Je suis bien aise de vous rencontrer, monsieur de Chantel, » répliqua-t-il. « Vous allez sans doute... à Chamblay ?»« Oui, monsieur, mais j'ai un peu de temps devant moi. Et si vous voulez, nous nous expliquerons sans retard. » Suberceau dit « Comme vous voudrez. » Les quelques voyageurs s'étaient dispersés déjà, emportés par les voitures publiques vers le village, situé à l'opposé des bois, dans la vallée de l'Oise. Maxime et Suberceau se dirigèrent du côté du bois. Ils ne se parlaient pas, gênés par le large vide qui les environnait, comme si le paysage nu les eût guettés. L'homme ne se sent point en sûreté pour exprimer sa pensée confidentielle, sinon dans les espaces étroits et clos. Dès qu'ils eurent franchi la lisière des premiers taillis, dans le chemin qui menait au château d'Armide, ils ralentirent le pas. « Monsieur, dit Maxime, je tiens à vous faire part de mon sentiment avant toute demande d'explication. Cela me permettra de vous dire en pleine liberté que je regrette sincèrement ce qui s'est passé. J'ai agi sous l'empire d'une émotion violente qui ne résonne pas, que vous devez comprendre. Je fais toutes mes excuses à la personne en question. Voilà. » C'est un caprice ironique de la destinée, ces malentendus qu'elle fait planer parfois sur les rencontres les plus tragiques, et cette ironie les rend plus tragiques encore. Julien ne comprit point ce que Maxime voulait dire, mais il ne lui vint pas à l'esprit qu'il pût s'agir d'une autre femme que de Maud. Juliette Avrezac était si loin de sa pensée en ce moment, et toutes les femmes, hors Maud de Rouvre. Il comprit seulement que l'ancien officier prenait posture d'excuse et de dérobage, et habitué à dominer les autres hommes, allait passer outre, cela ne l'étonna pas. « Alors, monsieur, demanda-t-il avec hauteur, si ce sont là vos sentiments, qu'allez-vous faire chez madame de Rouvre ?» Maxime, cette fois, soupçonnait l'erreur. « Je crois décidément, répliqua-t-il avec rudesse, que nous ne parlons pas de la même personne. Je veux dire, moi, la jeune fille que vous avez reçue chez vous, ou du moins qui est sortie de votre maison à 6 heures il y a quelques jours. Juliette Avrezac, c'est vous qui la nommez. Eh bien, qu'est-ce que cette petite a à faire ici? Ah, vous ne savez pas ce qui s'est passé, ce n'est pas mon rôle de vous l'apprendre. J'ai été induite en erreur. C'est de cette erreur que je m'excuse auprès de mademoiselle Avrezac, et comme il n'y a pas apparence que je la rencontre, je vous en charge si vous voulez. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, puisqu'il ne s'agit pas de cette jeune fille, je vous demande à mon tour ce que vous me voulez, monsieur, et pourquoi je vous trouve sur mon chemin. » Suberceau, sans rien dire, guettait l'irritation croissante de Maxime, guettait le mot, l'insulte à relever. Il guettait si avidement que Maxime s'en aperçut. Maxime frémit de l'envie brutale de lutter entre mâles dans cette forêt, la même envie qui avait, l'heure d'avant, fait palpiter Suberceau. Une affaire entre nous, et Maud est déshonorée. Cette pensée l'arrêta. Il résolut qu'il ne se battrait pas avec Julien, et ce fut formellement, définitivement, comme tout ce qu'il décidait. « Au fait, peu importe, dit-il, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. » « Mais pas du tout, monsieur, répliqua vivement Suberceau. Ce n'est pas fini. Comment? Vous vous permettez de surveiller ma maison? Vous faites subir à une femme un espionnage odieux? » « Arrêtez, monsieur, interrompit simplement Maxime. Ne cherchez pas l'occasion d'une affaire. Je ne veux point me battre avec vous. Donc, pas d'injure. Vous pensez de moi ce que je pense de vous là-dessus. Ni l'un ni l'autre, nous ne reculons devant un coup d'épée. Je ne me battrai pas avec vous avant d'être le mari de mademoiselle de Rouvre. Voilà qui est clair, n'est-ce pas? Et vous comprenez mes raisons. Après, quand mademoiselle de Rouvre sera ma femme, je serai tout disposé à vous rendre raison. Croyez-moi, laissez cela, laissez-moi. » Ce fut dit si net, si ferme, que Julien comprit qu'il n'y avait pas à s'obstiner. Il fut obligé de se rendre cette terrible justice, châtiment des caractères qui se sont compromis devant leur propre... arbitre, s'il refuse publiquement de se battre avec moi, ce n'est pas lui qui sera déshonoré. » Et le grand désespoir de la veille, dont l'avait momentanément délivré la résolution de se mettre en travers du chemin de Maxime, à présent que le moyen si simple d'un duel lui échappait, de nouveau s'abattit sur lui. Les deux hommes, sans plus rien dire, marchèrent quelque temps le long de l'allée. Malgré tout, Maxime désirait que Suberceau parlât encore, effaré devant le réveil des affreuses hésitations assoupies. D'accord, tous deux s'arrêtèrent et se considérèrent. Ils comprirent, après ce coup d'œil échangé, qu'ils allaient enfin se dire tout, savoir le fond de l'âme l'un de l'autre, et que cette explication était nécessaire. Il y eut, à cette éloquente déclaration que se firent leurs yeux, une promesse réciproque de trêve. C'était l'entente passagère de deux consciences d'hommes, adverses, hostiles, contre la torture infligée par une même femme. Le jouisseur sans moralité qu'était Suberceau, l'espèce de saint laïque qu'était Maxime de Chantelle, s'allièrent un instant. Monsieur de Chantelle, dit Subersot presque à voix basse, son masque d'ironie mondaine tombé. N'allez pas à Chamblay. Et il y eut de l'anxiété, pas de colère, dans la réplique de Maxime, ce simple mot « Ne me faites pas parler, à quoi bon? Vous me croyez à présent, j'en suis sûr. Retournez à Paris, retournez dans votre pays. Tâchez d'oublier ce que vous avez vu et entrepris ici. » Maxime, lentement, avançait toujours. Subersot lui mit la main sur le bras, d'un geste où il n'y avait plus de menace, aucune contrainte, une sollicitation convaincue seulement. « Vous ne pouvez pas épouser Mademoiselle de Rouvres. Voyez, je vous parle sans colère. Croyez-moi, vous allez à une catastrophe. Retournez, n'allez pas plus loin. »« Oh, mon Dieu !» murmura Maxime. Il souffrait si cruellement qu'il ne songeait plus à dissimuler. « Retournez chez vous, reprit Subersot. Allez-vous-en. Laissez-moi seul en face de Maud. Vous n'avez pas le droit de l'épouser, ni elle. » Un cri de détresse s'étrangla dans la gorge de Maxime. « Ah, ce n'est pas vrai! Vous mentez! Je me battrai avec vous maintenant! Je vous tuerai, misérable !» Subersot secoua la tête. « À quoi bon nous battre? Tout est fini maintenant que vous savez. Maud est ment !» Il détourna avec son bras, habitué aux luttes, l'élan de Maxime qui se précipitait sur lui et l'arrêta court en disant « Chut! La voici !» Une tache mauve flottait, ensoleillée, au-delà du coude de l'avenue, et s'avançait. Ils continuèrent à marcher à sa rencontre. Et soudain, Maud les aperçut. Elle tressaillit. Sans savoir comment s'était machinée cette rencontre, elle avait compris que l'heure tant de fois présagée où les deux hommes s'expliqueraient en sa présence, que cette heure venait d'échoir. Elle ramassa son énergie, recueillit son sang-froid de lutteuse, résolue à passer outre, à continuer sa route en avant, par-dessus l'obstacle s'il le fallait. Peut-être Maxime ne sait rien. Alors rien n'est perdu. S'il sait, c'est fini. Eh bien, tant pis, ce sera fini. Mais je resterai moi quand même. Rester soi, c'était ne pas abdiquer son attitude d'aventureuse bravoure qui marche sans regarder en arrière, toujours résolue. Ni celui-ci, ni celui-là ne me feront plier, pensa-t-elle encore en observant les deux hommes. Et, masquée d'impénétrable indifférence, elle attendit leur lutte devant elle, pour elle. Le plus troublé, certes, fut Subersot, qui subitement entr'ouvrit l'abîme où ses espoirs allaient crouler. « Jamais Maud ne me pardonnera !» Maxime, lui, s'était ressaisi. « Maud, dit-il, la voix tout de même entrecoupée, j'ai trouvé, en venant ici, monsieur de Subersot sur mon chemin. » Subersot, blême d'émotion, essaya de parler, si troublé que sa bouche se tordit sans proférer une parole. Maud le regarda et ce regard le fit reculer. « Qu'est-ce qu'il vous a dit ? » demanda la jeune fille en ramenant sur Maxime ses yeux où elle mit de la douceur. « Il m'a dit, et il allait me dire du moins, car je ne lui ai pas permis d'achever, que vous aviez été ça. » Le mot se brisa dans un sanglot sec. « Sa maîtresse !» Elle marcha à Subersot et demanda « Tu as dit cela ?» Il ne le nia pas, il balbutia seulement son nom. « Maud !» Sans proférer un mot de reproche, elle le regarda encore un long moment, avec des yeux qui changeaient, se chargeaient d'hostilité et de mépris. Puis, d'un seul geste en coup de fouet, elle lui sabra le visage de son ombrelle qui se brisa en deux, lacérant la peau qui saigna. « Va-t'en » dit-elle, jetant les morceaux à terre. Il tremblait comme un enfant qu'on vient de châtier. La brève douleur de ce cravachement, pourtant, lui fut chère. Il chercha la caresse dans cette brutalité. Mais le regard de Maud, arrêté sur lui, lui ôtait toute force. Il ramassa son chapeau d'un geste machinal. « Va-t'en !» répéta Maud. Lentement, il remit son chapeau bossué, sali de terre. C'était douloureux, affreux, cet écroulement brusque de la dignité d'un homme sous l'impérieuse violence d'une femme, et le cœur de Maxime, à ce spectacle, se leva d'indignation. Lui, Subersot, ne voyait plus Maxime, ni l'endroit où il était. Il ne voyait que Maud, et peu lui importait d'être humilié. Il ne pensait que ceci. Maud, irritée, et la seule chance d'être pardonnée, Obéir, obéir vite. Va-t'en ! Il ne demanda plus rien. Humblement, comme une bête battue, il partit sans hâte. Maud et Maxime le virent s'éloigner à pas lents. Il ne se retourna pas, il ne regarda pas en arrière. Oui, c'était navrant et horrible. Maxime en souffrit dans sa dignité d'homme pour l'homme qui partait ainsi, flétri et battu par une femme, dans l'effroyable déchéance où s'effondrent tôt ou tard ceux dont l'amour débauche a lentement usé la volonté, dissout le sens moral derrière l'apparente façade d'ironie et d'insolence. Courbé, chancelant, méconnaissable, Maud et Maxime le virent disparaître au coude de l'allée. Ils étaient seuls. Si Maxime eût jamais senti fléchir son courage, son vouloir de ne pas abdiquer, l'exemple effrayant de Suberceau l'eût ranimé. Raillant toutes ses énergies, il se redressa et sa voix ne tremblait pas trop quand il prononça « C'est à mon tour de partir, n'est-ce pas ?» Ils se regardèrent un instant. Sans savoir quoi, ils sentaient bien qu'ils avaient encore quelque chose à se dire, qu'ils ne se quitteraient pas ainsi. Maud, sans doute, pensait « Il dépend de moi de le reprendre. Essayerai-je » Mais sur cette âme d'aventurière héroïque, point vulgaire bien que dévoyée, la vue de Suberceau effondré et fuyant avait eu le même contre-coup que sur Maxime. Le mensonge la dégoûta subitement. « Écoutez-moi, Maxime, dit-elle, je ne veux vous dire qu'un seul mot. Je ne vous ai pas trompé. C'est cet homme qui a menti. Je n'ai jamais été sa maîtresse. » « Vous me croirez, car j'ajoute qu'il m'a aimé, que je l'ai aimé, que je l'aimais peut-être encore hier. Donc tout est fini, n'est-ce pas? Je ne cherche pas à vous persuader, à vous retenir malgré vous. » Il n'est point d'amant sincère qui n'eût, à ces paroles, entrevu la lueur d'une espérance. « Alors, fit Maxime. » Et ses yeux, des yeux d'amant toujours, d'amant passionné, implorait une explication complète, rassurante. Pour la première fois peut-être, Maud comprit le leurre de cette prétendue dignité personnelle qu'elle avait cru conserver parmi les compromis et les duperies. Il n'y avait pas moyen, l'eût-elle voulu, d'expliquer la vérité à Maxime. Il eût fallu mentir, encore mentir. « Ce qui s'est passé entre lui et moi, reprit-elle dans un violent besoin de sincérité, de rachat devant soi-même. Non, ne me le demandez pas. Je ne puis pas vous le dire. Il vaut mieux pour vous que vous ne restiez pas ici, que vous ne pensiez plus à moi. » L'horreur de la séparation imminente fit pâlir Maxime. Une fois encore, il voulut espérer. Tous deux, lentement, s'étaient remis en marche vers le château. Maud, je ne suis venue dans votre vie que depuis bien peu de temps. Le passé ne m'appartient pas, je n'ai pas de droit sur lui. Puisqu'il a menti, pourquoi me défendre de penser à vous ? Elle le regarda, reprise d'hésitation, elle aussi. Ce fut une minute fatidique, le tranchant du destin dont parle le Tirésias de Sophocle. Maxime reprit. « Si je vous aimais assez pour vous pardonner. » Ce mot de pardon rompit brusquement la trêve. Maud fut décidée d'un coup. « Je ne veux pas de pardon, répliqua-t-elle. Croyez-moi, Maxime, quittons-nous. Vous vous rappellerez que c'est moi qui vous ai dit « partez » à un moment où, peut-être, j'aurais pu vous ressaisir. Il ne faudra pas penser à moi haineusement. Vous me le promettez ?» Maxime comprit, au sérieux de ses paroles, que vraiment l'adieu était formel, qu'il fallait se quitter. « Je vous le promets, » dit-il, la voix grave et troublée. « Adieu. » Et ce fut tout. Il la vit s'éloigner, la tache mauve s'estompa quelque temps à travers les pousses feuillues des taillis, puis s'effaça. Alors seulement, il comprit que son rêve était fini, que Maud était perdue. Une statue, près de là, dans un enfoncement de l'allée, une ébée de marbre, versait dans sa coupe ronde une invisible liqueur. Au pied de la statue, il y avait un banc. Maxime s'assit sur le banc et, le front sur ses mains, s'écroula dans l'abîme de cette idée fixe. Maud est perdue, Maud n'existe plus. Maud n'existait plus. À sa place, il voyait maintenant, les écailles tombées de ses yeux, une fille pareille aux autres filles de cet affreux monde, sans pudeur, sans croyance, où elle vivait et dont il avait mis à part parce qu'il l'aimait. Le mot d'Hector Le Tessier, demi-vierge, lui traversa la mémoire et il sourit d'amertume. Elle aussi, l'idole, l'épousée choisie, une demi-vierge. Car il comprenait tout, à présent, préparé à la soudaine évidence par les longues angoisses des doutes antérieurs. Aimer une telle âme, désirer un corps ainsi pollué, non. C'était si impossible à cet être simple et sain qu'il n'eut même pas l'idée de courir à cette maison, toute proche, où elle s'en était retournée, de la rejoindre, de la reprendre. Vraiment, il ne l'aimait plus, il ne la voulait plus, elle pouvait appartenir à qui il lui plairait, la jalousie ni le désir ne le tourmenteraient plus. Sa souffrance, et elle était l'agonie même, c'est que quelqu'un était perdu irréparablement, était mort, quelqu'un en qui il avait cru, qu'il avait adoré. Elle était morte, la fiancée, l'amante. Il a pleuré comme une morte. Et toute sa vie, il a pleuré. Le soir même, Maud de Rouvre était réinstallée à Paris. Sa résolution, comme toujours, avait été prompte et définitive. Après avoir quitté Maxime, elle avait regagné le château d'Armide, s'était enfermée seule dans sa chambre et là avait considéré les événements comme un chef d'armée inspecte ce qui lui reste de troupes après une défaite. Car pourquoi chercher de vaines dissimulations? C'était une défaite, la ruine d'espérances précieuses. Reconquérir Maxime, elle n'y songea même pas. Si près d'elle, au moment de la perdre pour toujours, il avait pu hésiter une seconde, certes. Maintenant, dans la solitude, il s'était déjà repris. Il ne m'oubliera jamais, mais jamais il ne reviendra. Jamais. Ce mot épouvante tellement notre humanité que la rancune de Maud fut traversée de tristesse. Maxime disparut, que faire de sa vie? Recommencer la lutte pour le mariage, c'était possible. Seulement, les chances de succès étaient largement entamées par l'échec présent. Vont-ils être contents, ceux qui me guettent, Aaron, Lauchelli et tous les petits claqués qui paradaient à la maison? Elle eut un instant de lassitude découragée à prévoir une nouvelle campagne pour le mariage, avec l'échec probable encore au bout de l'effort. C'est donc impossible, maintenant, de se marier? Recommencer? Et comment? Où trouver l'argent pour continuer à dépenser comme hier? Où trouver 300 louis par mois? Déjà, toute sa fortune personnelle était mangée. La rentrée à Paris, c'était la banqueroute avérée, l'assaut des fournisseurs que l'espoir du mariage riche avait fait patienter, la saisie. Oh, cela, jamais! Alors, que faire? Elle n'envisagea même pas l'hypothèse d'un mariage avec Subersau. La rancune avait trop exalté sa fierté pour laisser parler encore la voix du désir. Et maintenant, c'était de lui et non de Maxime qu'elle souhaitait se venger. Oui, lui faire du mal. Elle voulait lui briser le cœur pour le mal qu'elle avait souffert de sa trahison. Or, elle y songea tout de suite, la vengeance était à sa portée, avec la solution immédiate de tous les ennuis d'argent, avec l'avenir assuré. Maîtresse d'Aaron. Soit. Dans cette lutte entre trois hommes pour sa conquête, elle appartiendrait au plus tenace, au plus habile, à celui dont les lentes et sûres machinations avaient déjoué, anéanti l'effort des deux autres. Maîtresse d'Aaron! Elle prononça tout haut ces mots horribles, imaginant le désespoir de Julien s'il les entendait, et la joie de faire ainsi souffrir l'homme qu'elle accusait de sa déchéance, triompha de l'horreur inspirée par l'odieux amant qu'elle acceptait. Désormais, elle fut résolue. D'abord, il fallait partir, rentrer à Paris pour quelques jours, presser le mariage de Jacqueline avec l'estrange, puis quitter la France, aller passer un mois ou deux à l'étranger avec Madame de Rouvre. On ne se fixerait de nouveau à Paris que sûr de l'avenir, la vie restaurée, rebâtie à neuf. Il y aura quelques mauvaises années, mais je saurai bien le tenir en bride, le juif. Il est marié, mais on divorce. Et un jour, qui sait? On ne chicane pas sur le passé d'une femme de banquier quand elle a 800 000 francs de rente. Elle sonna Betty. Faites-les mal, Betty. Ce soir, nous couchons à Paris. Et comme, l'instant d'après, Madame de Rouvre, affolée, ne comprenant rien à cette résolution imprévue, tombée dans la chambre pleine d'émoi et de questions, Maud répliqua brièvement. « Nous partons parce qu'il faut partir, entends-tu? Il le faut. Je t'expliquerai cela à Paris. Pour le moment, je n'en ai pas envie. Crois-moi sur parole. Il le faut. Dépêche-toi. Mais nos amis Le Tessier qui viennent dîner. Ils verront bien que nous ne sommes pas là. D'ailleurs, je vais leur télégraphier. Mais Madame de Chantelle et Jeanne. Madame de Chantelle et Jeanne ne viendront pas. Cela l'exaspérait, cette série d'interrogations et d'effarements, à mesure que la nouvelle du départ passait dans la maison d'une personne à une autre. Étiennette s'en aperçut, ne questionna pas. Jacqueline dit seulement « Oh, moi, ça ne m'étonne pas, j'attendais le coup. Ma malle est faite, je campais. Qu'est-ce que tu comptes faire à Paris ? » demanda-t-elle à Maud, non sans ironie. « Je ferai ce qui me conviendra, » répliqua Maud. « Naturellement, je te prie seulement d'attendre que je sois la légitime épouse de Luc. Après, c'est ton affaire. »